Les effronter.
Avec Geneviève Pettersen. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Vous écoutez.
Les effronter.
Et là là, là 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 là, on se reparle du dossier des écoles. Je ne sais pas si vous êtes comme moi et comme bien des parents, mais on est mêlés. C'est compliqué. Beaucoup de décisions se prennent rapidement. On apprend tout ça à la va comme je te pousse. Et là, les enfants en difficulté. Hein, on se rappelle qu'à la base, on avait discuté de rouvrir les écoles pour eux, pour les enfants en difficulté. Certains de ces enfants-là pourront finalement revenir à l'école, mais plusieurs parents, plusieurs directions d'école, plusieurs profs, même s'ils sont apeurés de venir parler, on les comprend, ont des réserves quant à l'implantation de ce retour qui a été annoncé vendredi par le ministre de l'Éducation, Jean-François Robert. J'en parle tout de suite avec Bianca Nguyen, présidente de la Coalition de parents d'enfants en besoin particulier du Québec. Madame Nguyen, bonjour.
Oui, bonjour.
Bon, premièrement, là, juste pour qu'on comprenne bien, on parle de camp pédagogique. C'est quoi ça, un camp pédagogique?
Ben, écoutez, c'est une très bonne question.
Peut-être que vous n'avez même pas la réponse.
Parler de ça. Ben, écoutez, nous, dès le 25 mars, on avait envoyé un courriel au ministre de l'Éducation, au ministre de la Famille et à la ministre McCann du Service social et de santé pour les enjoindre vraiment là à réfléchir rapidement à mettre sur pied un plan tripartite parce que justement, comme vous l'avez nommé en introduction, ces écoles-là auraient jamais dû fermer pour les élèves à besoins particuliers. Parce que si on avait vraiment considéré que c'était des élèves qui avaient des grands besoins d'encadrement au niveau pédagogique, que c'était des élèves à risque de décrochage scolaire, si on était vraiment conséquent avec toutes les études et toutes les résultats, on serait pas en train de parler là de l'improvisation de l'annonce qui a été faite vendredi dernier. Comme vous l'avez dit, à la va je te pousse, complètement inattendu, improvisé, que les premiers concernés, qui sont les parents et les enseignants et les écoles, ne sont même pas tenus informés en amont que ça fait partie du plan.
Mais c'est ça qui me surprend quand je vous écoute, Madame Nguyen, puis quand je lis aussi les commentaires sur les différents groupes de parents dont je fais partie sur Facebook. T'sais, vous venez de me dire que vous avez envoyé, que vous avez interpellé en fait le ministre au mois de mars. On est rendu le 2 juin. Là, on vous arrive avec ça. Il y avait une communication entre les parents, les différentes associations et le ministère. Et là, ce que je peux comprendre, c'est que vraiment, les gens sont en beau fusil, d'avoir appris cette nouvelle-là en même temps que tout le monde.
Ben, c'est certain que, tu sais, apprendre, nous, on a aussi des enseignants. Je vous rappelle que la coalition, c'est un rassemblement de voix, d'experts par expérience, et on a aussi des enseignants. On a des enseignants sur notre conseil d'administration. Je suis moi-même aussi professeure au collège et à l'université. Alors honnêtement, c'est pas surprenant quand finalement on manque de vision puis on manque de leadership. Faut pas se le cacher. C'est quelque chose qui est flagrant en ce moment en éducation. Évidemment, revenons à ces camps-là. Ces camps-là, on a relancé aussi le 20 mai dernier une deuxième missive auprès de tous les députés de la Commission culture et communication parce qu'il y avait un retour en commission parlementaire. Alors, on a préparé une infographie sur les quatre grandes priorités qui était finalement un résumé de l'ensemble des sondages éclairs, des sondages internes maison qu'on a fait, puis aussi des rétroactions qu'on recevait de nos membres puis nos alliés pour lancer quatre grandes priorités. Puis dans une de ces priorités-là, on demandait effectivement des classes d'été. Alors, pour nous, c'est ce qu'on s'attendait. On s'attendait qu'il y ait une annonce pour dire qu'il était pour avoir des camps. Alors, c'est certain qu'on comprend que c'est surprenant, mais ce qu'on comprend mal, c'est que c'est laissé de manière aléatoire puis arbitraire à la bonne décision de l'organisation des commissions scolaires. Et on leur met toute la pression pour organiser ça, sans nécessairement les avoir avertis et sans aussi avoir tenu au courant les enseignants qui seraient amenés à offrir ces camps-là pédagogiques. Oui, et là, on parle de 3 semaines, mais on parle aussi de camps, on parle aussi de répit pendant l'été en coordination avec les services sociaux, mais on n'a aucun détail. Puis on est à 3 semaines de la fin du calendrier
scolaire.
C'est
ça, qui va décider, quels élèves vont pouvoir avoir accès à ces camps-là et comment on va déterminer qui est en difficulté, quelles difficultés sont admissibles?
C'est déjà inscrit dans la loi sur l'instruction publique. C'est que malheureusement, il n'y a pas grand monde qui la comprend. Parce qu'elle n'est pas très claire, en fait. C'est pour ça qu'on a dû développer une politique d'éducation nationale en 2018, parce qu'on n'avait aucune politique qui encadrait cette loi-là. Mais ceux qui connaissent un peu la gouvernance scolaire savent très bien qu'en gouvernance scolaire, il y a ce qu'on appelle la subsidiarité des pouvoirs. Le ministre n'a pas le choix de laisser les commissaires décider parce que dans la loi sur l'instruction publique, il n'y a pas le droit de décider. Alors, c'est ça que les gens réalisent pas. C'est que, il y a des droits et des privilèges qui étaient de l'ordre des commissaires. Là, ben, il a aboli ce niveau-là pour pouvoir rapprocher les pouvoirs des écoles, mais sans nécessairement leur donner les conditions et les outils nécessaires pour les appliquer.
Oui, ils sont dans un entre-deux qui tombe plutôt mal en ce moment, là.
Ben exactement. Alors, on aurait-tu eu besoin de nos élus scolaires en ce moment pour justement nous représenter puis faire entendre nos voix? Ça a comme vraiment ben à donner mal la pandémie puis pas avoir de représentation pour pouvoir faire entendre nos voix. En tout cas, c'est un autre sujet, mais tout ça pour dire que en ce moment, c'est pas surprenant que le ministre lance des prescriptions ou des recommandations, comme dans sa lettre qui dit « Je suis heureux de vous confirmer qu'à partir du 1er juin 2020, de nouvelles mesures destinées aux élèves de la formation générale des jeunes et des adultes qui présentent des besoins particuliers seront autorisés. 3 semaines et demie après, deux mois et demi après le début de la pandémie, c'est là qu'ils réalisent qu'il y a des formations, des services d'enseignement d'intégration sociale de formation aux adultes. C'est là qu'ils réalisent qu'il y a des élèves qui sont inscrits à des services d'enseignement socio-professionnels, des formations semi-spécialisées. C'est là qu'ils réalisent qu'il y a des élèves au préscolaire, au primaire et au secondaire handicapés ou qui ont des troubles de graves de comportement, qui ont besoin d'avoir un encadrement spécialisé.
Ben c'est ça, je veux qu'on en parle concrètement là, parce que tu sais moi j'ai le privilège d'avoir des enfants qui sont pas en difficulté, donc j'ai de la misère à me figurer qu'est-ce que ça peut être une journée par exemple dans votre vie là, parce que je suis dépassée par une chose aussi simple que la trousse du ministère là, puis on s'entend là.
Les courriels qu'on reçoit de nos trois enfants, quand on a des enfants secondaires puis qu'on a des enfants primaires.
Puis j'ose même pas m'imaginer ce que ça serait si j'avais des enfants en difficulté. Puis c'est un peu tabou de dire que les parents d'enfants en difficulté ont besoin d'un répit, mais c'est quand même ça pareil, c'est vrai.
Ben c'est certain que je peux vous dire qu'en ce moment sur les réseaux sociaux, ça ventile.
C'est bien.
Il y a des parents, c'est bien, mais il y a des parents qui ça fait longtemps là qui sont en surcharge là.
Il était avant la pandémie, c'est ça qu'on se dit là.
Effectivement, puis on s'entend que être sur une liste d'attente pour savoir des services au niveau des services sociaux ou de santé, parce que l'école n'en donne pas, parce que ils nous disent que nos enfants sont éligibles à le savoir au public, alors ils vont consacrer ces ressources-là pour les élèves qui n'en reçoivent pas. Alors à quoi ça ressemble les journées? Ben ça ressemble au fait que malheureusement on a de la difficulté à encadrer nos enfants. Au niveau de les mettre en action pour parce que souvent on n'a pas reçu le portable. Il y a encore des familles qui n'ont pas reçu le portable.
Partez-moi pas ça sur le dossier des portables.
Exactement. Il y en a aussi qui n'ont aucune espèce de demande à des parents.
On est le 2 juin, je veux juste qu'on se relève.
Ben oui, exactement. Okay. C'est ça. De s'encadrer, il y a des parents, nous on a demandé dans nos priorités de donner des soutiens aux parents pour encadrer leur enfant avec les outils des outils technologiques.
En avez-vous?
Ben non, c'est pas quelque chose qui est connu. Il y a certaines commissions scolaires qui sont très très proactives. Il y a certains enseignants effectivement qui sont très compréhensifs, qui ont envoyé des documents complémentaires pour soutenir les parents à comprendre comment que ça fonctionne les outils. Mais on s'entend que on n'est pas enseignant. C'est pas notre et on n'est pas éducateur spécialisé et on n'est pas travailleur social.
Mais
on n'est pas.
Ça, c'est tellement intéressant, cette nuance-là. Puis ça passe souvent mal quand les parents disent on n'est pas enseignant. Mais c'est vrai, tu sais, être un parent, c'est une chose. Enseigner à son enfant des matières, c'est un baccalauréat, c'est pas pour rien, là. Je veux dire, c'est un vrai travail, c'est un métier.
Et c'est des stages.
Puis ça a changé, là, depuis notre temps, là. Il y a eu 1800 réformes. Donc, moi, je me sens pas apte à expliquer les maths à mon enfant.
Et ça, c'est juste au niveau pédagogique. Mais nous, on a vraiment des
enjeux cognitifs.
besoins, des besoins psychosociaux aussi. Oui. Là. Nos enfants font des crises, nos enfants se désorganisent, nos enfants je vous donne un portrait de ceux qui ont les plus grands besoins. Évidemment qu'il y a des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, mais sur le plan comportemental, ça va mieux. Il y a pour qui des familles que certains enfants, en fait, ils se sentent en sécurité d'être à la maison, mais ce qui manque, c'est le temps aux parents. On travaille.
On
doit faire des suivis. Et puis, il y a certains parents, à un moment donné, ils disent, on a demandé une bonification de 300 $ au crédit d'impôt pour enfants handicapés parce que le portable, là, ben, des fois, là, on en a juste un. Puis l'école donne juste un, mais des fois, on a 3 enfants. Puis l'enfant primaire, ben, il a rendu au 5e, 6e année, ben, des fois, il fait des travaux sur un ordinateur. Nous, on a besoin d'avoir un soutien financier aussi. Là, on n'a aucune espèce d'idée aussi de ce qui va arriver avec ces
La vérité, c'est qu'il y a des parents qui vont arrêter de travailler pour s'occuper de leurs enfants. Et...
Ben c'est un phénomène, ça. Il y a des études là-dessus. Moi-même, je suis chercheure en sciences sociales qui prouvent que, effectivement, les parents d'enfants, notamment les parents d'enfants autistes, une étude récente à l'Université de Concordia, il y a 2 ans, 75% de ces parents-là vivent du stress.
Et puis les séparations, ça doit être tellement
de
être tough sur le couple.
De 50 à 75% de séparation. En fait, il y a une 50, ça c'est tout le monde qui est visé par ça, mais nous ça peut monter jusqu'à 75%. Alors effectivement, il y a beaucoup d'adaptation en si peu de temps. Alors il y a certains parents qui disent, écoutez, nous ça vaut pas la peine pour 3 semaines. Là.
Oui, nos parce enfants, que ça sera pas obligatoire, faut le souligner.
Bien sûr, parce que les ministres ne peuvent pas le rendre obligatoire, parce qu'il n'y a pas le pouvoir, parce qu'il y a des mesures sanitaires en ce moment, puis malheureusement, dans ces contextes-là, il n'y a pas le pouvoir de rendre ces prescriptions obligatoires.
Allez-vous l'utiliser, ce service-là, Mme Nodjan?
Ben, écoutez, moi, c'est un autre enjeu. Moi, malheureusement, il y a aussi des enjeux de garde partagée. Hein, aussi.
Oh oui, ça s'ajoute.
Imaginez la
bien
garde
sûr.
Partagée, puis les conflits, les dilemmes qui arrivent, à savoir qu'une famille veut envoyer leur enfant, puis l'autre veut pas. Alors, il y a plusieurs parents qui nous partagent cette réalité-là. Moi, de mon côté, j'ai demandé un retour. Là, on vient d'avoir une confirmation d'une possibilité d'un camp spécialisé pour 3 semaines seulement pendant l'été. Qu'est-ce qu'on va faire pour le reste des semaines?
Je vais vous souhaiter la meilleure des chances, Madame Bianca Nugent, présidente de la Coalition de parents d'enfants en besoins particuliers du Québec. Merci.
Au plaisir.